RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène en Inde aujourd'hui avec un coup de force. Le 8 novembre dernier, le Premier ministre Narendra Modi surprend tout le monde en annonçant que les deux billets à plus forte valeur seront invalidés dès le lendemain. Tout cet argent liquide doit être déposé sur un compte en banque pour être échangé par de nouveaux billets. L'objectif, c'est de couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui cachent du liquide chez eux, issus de la corruption ou de l'économie parallèle, des sommes jamais déclarées aux autorités qui représenterait jusqu'à 60% du PIB. Ces billets doivent donc être rapportés aux banques et taxés ou seront perdus à jamais. Mais cette mesure radicale a semé un vrai chaos dans la troisième économie asiatique, car en Inde, 98% des échanges sont réalisés en liquide et les nouveaux billets n'arrivent qu'au compte-gouttes. Depuis plus d'un mois, les habitants font donc la queue pendant des heures pour obtenir un peu d'argent. La consommation a chuté et la plupart des commerces vivent une vraie crise. Les économistes s'alarment car cette situation risque de durer plus longtemps que prévu et pourrait faire plonger l'économie indienne en récession. La démonétisation en Inde, coup de maître ou folie économique, un grand reportage signé Sébastien Farcy.
Le 8 novembre au soir, alors que le monde entier a les yeux rivés sur les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, le Premier ministre indien Narendra Modi apparaît sur tous les écrans de télévision du pays et de manière très solennelle explique la réforme surprise qu'il a décidé de mettre en place pour lutter contre l'économie parallèle.
La quantité de liquide en circulation est directement liée au niveau de corruption. Et l'inflation augmente à cause de la croissance de ce liquide obtenu par des moyens corrompus. Les pauvres en paient le prix et vous avez vous-même dû en souffrir. Quand vous achetez un terrain ou une maison, en plus d'un chèque, on vous demande de payer une grande partie de la somme en liquide. Mes frères et sœurs, pour se défaire de l'emprise de la corruption et de l'argent noir, nous avons décidé que les billets de 500 et 1000 roupies ne seront plus valides à partir de ce 8 novembre 2016 à minuit.
La mesure est radicale et l'annonce fait l'effet d'une bombe. Car depuis les achats de légumes jusqu'au paiement des salaires et des loyers, le liquide est roi en Inde. 98% des transactions sont réalisées en monnaie de papier et les billets de 500 et 1000 roupies, qui sont équivalents à 7 et 14 euros, sont les coupures les plus élevées et les plus utilisées du pays. À partir du 9 novembre, la chasse aux billets est donc lancée. Le premier objectif pour les Indiens, aller à la banque pour déposer leurs anciens billets devenus invalides et les échanger par les nouvelles coupures. Mais cette simple opération se révèle être un calvaire depuis plus d'un mois, car il faut changer 22 milliards de billets. Dans tout le pays, des queues interminables apparaissent donc, de jour comme de nuit, devant les banques et leurs distributeurs. Il est 10h du matin sur l'avenue Bhishma Pitama, dans le sud de New Delhi. Environ 80 personnes attendent devant l'agence de la banque Axis. En tête de file se trouve Sandeep Malik, 24 ans, couturier dans une petite fabrique du quartier. Il gagne 6 euros par jour pour 14 heures de travail et maintenant il doit en plus passer 5 heures par jour dans la queue. Son patron le paye en anciens billets qu'il doit venir changer et ce matin il essayait également de retirer ses économies de 10 000 roupies, soit 137 euros, de son compte en banque pour pouvoir payer son loyer car son logeur ne veut pas de chèque.
La situation est vraiment problématique. Je suis arrivé ce matin à 5 heures. C'est la troisième fois que je viens cette semaine et je fais à chaque fois 5 ou 6 heures de queue. Hier, au bout de 90 personnes, il n'y avait plus d'argent à la banque. La veille, j'étais également ici, mais l'argent s'est alors épuisé au bout de 40 personnes dans la file. Maintenant, cela fait plus de 5 heures que j'attends et je ne sais pas si j'en aurai. C'est cruel, car je n'ai même pas de quoi acheter à boire ou à manger.
Une personne sort finalement de la banque avec un gros sac.
J'ai obtenu 10 000 roupies en billets de 10 roupies. Ça fait un très gros paquet. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient que ça. Alors je vais essayer de les échanger avec des petites coupures dans des magasins.
Un homme qui fait aussi la queue désespérément depuis une semaine s'approche et soutient que tous ses efforts sont en fait pour la bonne cause.
C'est bien, c'est même très bien ce qui arrive, car pour les pauvres comme nous, cela ne change pas grand-chose. Mais les riches, eux, ils sont vraiment dans la merde maintenant.
L'Inde est l'un des pays au monde qui dépend le plus du liquide. Il faut dire qu'environ un adulte sur trois ne possède même pas de compte bancaire. Cela crée un énorme déficit pour le trésor indien qui a du mal à identifier ses transactions. Cette économie parallèle non taxée représenterait plus de 60% de son produit intérieur brut. En invalidant la majorité des billets, le Premier ministre a envoyé un électrochoc dans cette économie souterraine, mais il a également paralysé toutes les transactions du quotidien. Nous sommes à Kotla, dans le sud de New Delhi, l'un des cœurs du commerce du détail de cette zone de la capitale. Ici, on trouve de tout, des épiceries, des vendeurs de tissus, des vendeurs de matériaux lourds. D'habitude, cette rue, la rue principale, déborde d'activité. Mais aujourd'hui, on voit bien, et ceci depuis plusieurs jours, que la rue principale est quasiment déserte et les commerçants, eux, eh bien, s'ennuie plus qu'autre chose. Nous allons voir d'ailleurs l'un de ces commerçants qui tient un petit magasin de tissus. Ses étagères sont très fournies, les tissus sont très colorés, mais le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clients dans son commerce.
Yes, sir. Namaste.
Bonjour.
Et Mesdames, Sébastien, votre nom est
Kamal Kapoor.
Je m'appelle Kamal Kapoor. Le commerce est vraiment en baisse. C'est la saison des mariages. Et généralement, nous sommes très occupés pour vendre les tenues traditionnelles. Mais les gens achètent en liquide. Or, maintenant, ils n'en ont pas. Ils viennent donc vraiment si c'est un besoin important. Et en plus, quand ils ont des billets, ils n'ont que des nouvelles coupures de 2000 roupies et il est difficile de leur rendre la monnaie. Quand on ne peut faire autrement, je leur propose de payer par carte.
Ah, vous avez une machine à carte ?
Oui, dans un autre magasin que j'ai plus loin. Vous savez, malgré tous ces problèmes, je pense que c'est une très bonne mesure pour lutter contre l'argent noir.
Ce soutien est assez étonnant pour des commerçants qui dépendent du liquide. Mais on va voir que ce marchand de tissus n'est pas le seul à penser ainsi. Nous nous rendons à quelques mètres plus loin, dans une épicerie, un kirana, comme on l'appelle en Inde. La source des achats de nourriture est donc l'un des piliers de l'économie indienne. Ce commerce familial qui ne fonctionne lui qu'en liquide a été frappé de plein fouet par la disparition des billets. R.K. Gar est le frère aîné et patron de l'épicerie.
Nos ventes se sont effondrées. Elles ont chuté de 65%. Et je pense que cela va mettre quelques mois avant de repartir.
Et malgré tout, vous soutenez cette réforme ?
Oui, je soutiens Modi, car ce qu'il a fait va mettre fin à la domination des richesses et rendre les gens plus égaux. Beaucoup de riches ne payent pas d'impôts et cela est mauvais pour tout le monde. En plus, cette mesure va également éliminer les faux billets.
C'est quoi les taxes qu'on paye ici sur un commerce comme celui-là ?
Les taxes sur le revenu, sur les ventes et la TVA.
Okay. Oui, donc vous payez les taxes, donc tout le monde doit les payer.
Oui, bien sûr, il faut les payer.
Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre quelques mois que l'économie reparte. À une centaine de mètres de ces commerces, le long d'une grande avenue, cinq hommes attendent, accroupis à côté de leurs sacs qui contiennent quelques outils. Ce sont des travailleurs journaliers, des plombiers ou des charpentiers venus des régions environnantes pour vendre leur main-d'œuvre en liquide, bien sûr. Mais depuis la réduction de la circulation des billets, ils sont au chômage forcé. Jatan, les dents noires et les yeux rougis par la fatigue, regarde les voitures passer, désespéré.
Avant, je travaillais en moyenne 4 jours par semaine. Des fois, on m'engageait sur un chantier pendant 2 semaines. Mais maintenant, plus personne ne vient nous engager. On ne nous dit pas pourquoi, mais c'est clair qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai travaillé que 4 jours en 3 semaines depuis qu'ils ont invalidé ces billets. Et depuis 4 jours, j'essaie de survivre avec 8 euros.
La construction et de manière générale l'immobilier est le secteur qui est le plus durement frappé par cette démonétisation partielle. Il y a une bonne raison à cela, c'est le marché le plus utilisé par les fraudeurs et hommes corrompus pour blanchir leur argent. Et pour se faire une grande partie, voire l'intégralité de ces achats de terrain ou de maisons se paye en liquide. Explication de Pradeep Sikri, associé dans une agence immobilière de New Delhi appelée Bricks India.
Jusqu'à présent, pour acheter une propriété haut de gamme, il fallait payer avec 20 à 30% de liquide. Pour les autres catégories, cela peut monter à 80 ou 90% du montant qui devra être payé en liquide. Les prix s'en ressentent. Pour des terrains dans la campagne autour de Delhi, le tarif minimum décidé par le gouvernement est de 1400 euros par acre. Mais le prix du marché, lui, est de 3 500 000 euros.
Le prix plancher recommandé par le gouvernement est fixé en fonction du coût de la vie. Et cette différence avec le prix du marché révèle l'énorme inflation immobilière en grande partie engendrée par l'afflux de cet argent non déclaré. Ce liquide a tellement fait gonfler les prix qu'un appartement à New Delhi ou à Bombay est parfois aussi cher qu'à Paris, alors que le niveau de vie, lui, est bien moins élevé. Cette bulle immobilière indienne devrait se dégonfler maintenant par la réduction de cet argent noir. Et dans l'immédiat, toutes ces transactions en liquide sont arrêtés, explique Pradeep Sikri.
J'ai conclu deux ou trois transactions depuis trois mois pour lesquelles 10% de la somme a déjà été payée. Ce sont d'énormes achats de 3 500 000 euros chacun. Et sur ce montant, 40% devait être payé par chèque et 60% en liquide. Mais mon client s'est désisté car il sent que le marché va baisser et qu'il pourra acquérir une propriété pour moins cher. Et en plus, le promoteur n'aurait pas accepter son argent liquide car les billets ont été invalidés. En fait, maintenant, ils les acceptent pour seulement trois quarts de leur valeur car ils peuvent trouver des moyens de les consommer ou les échanger.
Et vous pensez que cette baisse du marché va durer?
The market is going to be down about 30-40% easily in Gurgaon.
Oui, à Gurgaon, dans la zone des bureaux proche de Delhi, les prix vont baisser d'au moins 30 à 40%. La plupart des personnes achètent avec de l'argent noir. Comme le gouvernement a invalidé cet argent, les promoteurs vont devoir accepter plus de paiements par chèque. Et comme il y a moins d'acheteurs avec de l'argent déclaré, ils devront donc baisser leurs prix. Ceci est sain pour notre économie et surtout pour les classes moyennes et basses. Car maintenant, comme il y a plus d'argent qui rentre dans le système, les banques sont plus riches et elles vont pouvoir offrir des prêts à de meilleurs taux. Avant, ces prêts étaient à 13 ou 14% et j'entends maintenant que les taux pourraient tomber à 3 ou 4%. Cela voudrait dire qu'une personne sur deux pourrait se permettre d'acheter sa propre maison. Et je pense que le marché va changer sur le long terme car les gens ont reçu le choc de leur vie. Ce n'est jamais arrivé auparavant et ils se disent que n'importe quoi peut arriver maintenant. Personnellement, je ne prendrai plus de risques. Tout cela veut dire que le marché va être plus propre, à mon avis. Cela était le meilleur et le seul moyen pour tuer le marché noir.
Dans la vieille ville de Delhi, des centaines de marchands fabriquent et vendent des pièces détachées pour des machines et véhicules. Ici aussi, quasiment toutes les transactions sont réalisées en liquide et seulement une petite partie est déclarée. La démonétisation partielle a donc fait souffler un vent de panique dans ce commerce. Les commandes se sont brusquement arrêtées et les entrepreneurs ont cherché des moyens pour blanchir leur argent. Vicky, patron d'une fabrique de pièces pour camions, explique comment certains s'en sont sortis.
J'ai entendu qu'un commerçant avait 5 ou 6 millions de roupies en anciens billets 4 jours après l'annonce de la mesure. Il a pu échanger ses billets en payant une commission d'environ 20 à 25%. Les riches n'ont donc pas perdu leur argent noir, celui-ci est toujours là. Il suffit de payer une commission. Je pense que les responsables des branches des banques sont complices dans cette affaire car il faut avoir accès à beaucoup d'argent et ce sont les seuls qui savent quand arrive le liquide depuis la banque centrale.
La participation des banquiers au blanchiment d'argent semble avérée car ces dernières semaines, des dizaines d'entre eux ont été arrêtés ou sont sur le coup d'une enquête pour avoir créé de faux comptes pour des hommes d'affaires ou pour leur avoir permis d'échanger d'importantes sommes d'argent. Les autorités redoublent également d'efforts pour attraper ces détenteurs de liquide et cela porte ses fruits. Depuis la mi-novembre, la police a déniché des sommes incroyables qui n'ont jamais été déclarées. 22 millions d'euros ont ainsi été découverts dans les placards et faux murs d'un avocat d'affaires de Delhi et 19 millions dans les coffres d'un industriel du sud du pays. Le tout en lingots d'or et petites coupures, vieilles ou nouvelles. La police a même arrêté une des voitures de cet homme d'affaires qui roulait depuis plusieurs jours chargé de billets pour échapper aux descentes dans ses résidences. Les rois de l'argent noir sont donc pourchassés et il semble que c'est dans ces moments difficiles que l'on se souvient de ses amis. Raj Sharma, un traducteur de New Delhi, explique comment l'un de ses anciens camarades de classe, devenu homme d'affaires louche, l'a appelé un jour en lui demandant de l'aider à blanchir son argent.
Il m'appelle, il m'a dit que oui, oh, ça va, oui, ça va très bien, bah, on se voit, ça fait longtemps, c'est pas mieux. On va dîner ensemble. Je dis ok, on va dîner ensemble. Et là, il m'a dit que, ah oui, tu sais que ce qui s'est passé, comment tu te débrouilles, mais je dis que c'est pas grave, tu sais que j'ai pas assez d'argent. Je dis, et toi, tu sais que moi, tu sais combien? 4 millions de roupies en liquide. Mais il faut aussi comprendre, un homme d'affaires qui est corrompu va jamais dire la vérité, en fait. La somme exacte, il va jamais révéler. Donc il m'a dit que ah oui, tu sais que peut-être que tu peux faire quelque chose pour moi, tu as combien d'argent dans ton compte, peut-être que tu peux mettre dans ton compte. Je dis que non, je suis désolé, en fait, tu sais que moi aussi j'ai beaucoup de problèmes, que mon père aussi, comme toi, il avait beaucoup d'argent à la maison, il faut qu'il mette tout ça dans mon compte. Ah d'accord, ok. Mais il a payé quand même pour le dîner. Après 2 jours, il m'appelle encore. T'es sûr que t'as pas un autre compte? Dis-moi, peut-être. Je dis que non, c'est pas possible. Je te dis, en fait, je suis déjà dans un problème. Là, je suis en train de compter mes billets de 500. Je dis au téléphone, j'ai menti. En hindi, nous avons en fait une expression que les gens, ils ont fait maintenant. Les riches qui ne parlaient pas avec les amis pauvres, ils nous contactent aujourd'hui pour le protéger. Et c'est ça qui arrive, en fait. Ma sœur aussi, elle a reçu des appels des amis. Mon beau-frère aussi, mon père aussi.
Chaque personne peut déposer jusqu'à 3500 euros en liquide sur son compte. Au-dessus de cette somme, elle doit prouver l'origine de cet argent et si elle a payé les taxes correspondantes. Le gouvernement indien a donné jusqu'au 31 décembre pour échanger ses anciens billets et il estime qu'une partie du liquide en circulation ne reviendra jamais, preuve que l'argent non déclaré a été éliminé. Mais cet espoir s'amenuise de jour en jour car les sommes qui reviennent dans le système bancaire sont plus importantes qu'anticipées. Le professeur Arun Kumar, agrégé d'économie, étudie depuis 20 ans l'économie parallèle et il affirme que cette mesure de démonétisation est inefficace pour lutter contre ce fléau.
L'une des principales idées reçues est que l'économie parallèle veut dire argent liquide. C'est une analyse qui est fausse, car les fraudeurs placent cet argent dans tout type d'investissement, dans leur commerce, dans l'immobilier ou en achetant de l'or. Le liquide représenterait ainsi moins d'un pour cent de cette richesse non déclarée. L'économie parallèle s'élèverait cette année à 62% du PIB, soit 290 milliards d'euros. Quand vous réalisez une démonétisation, vous pouvez au mieux invalider 1% de cet argent illégal. Mais même ces 1% ne sont pas touchés, car les fraudeurs trouvent des moyens de blanchir ces sommes en liquide. Mon estimation est que moins de 0,1% de cet argent noir sera éliminé.
Ces sommes pourraient de plus rapidement réapparaître car les mécanismes qui permettent de créer de l'argent non déclaré comme la surfacturation n'ont pas été éliminés. En attendant, le professeur Kumar estime qu'il faudra au moins 6 mois pour réimprimer les milliards de billets invalidés. Et à cause de cette pénurie, les Indiens vont éviter de dépenser, ce qui risque de ralentir la croissance économique.
Considérons cette analogie. Si je prends 85% du sang d'une personne et que je le remplace petit à petit, le corps va mourir. Eh bien, c'est pareil pour l'économie. Et ce liquide ne peut être remplacé par les cartes, car beaucoup de personnes n'en ont pas. Les commerces n'ont pas de machines pour les lire. Et dans les campagnes, souvent, il n'y a même pas d'électricité. Tout cela mettra du temps à changer. Les gens ne font donc plus d'achats non essentiels. Si je veux acheter une chemise, je vais préférer attendre 2 mois que la situation se stabilise. De même, si je veux remplacer mon réfrigérateur, le commerce de gros, de détail ainsi que les services sont touchés. Ce qui va arriver, c'est que dans environ 1 mois, tout ceci va devenir plus permanent. Le chômage va alors augmenter, ce qui va forcer les travailleurs à repartir dans leur village. Et cela va entraîner l'économie indienne dans la récession.
La Banque centrale a réduit ses prévisions de croissance de 0,5 point de pourcentage pour le dernier trimestre 2016. Mais les banques privées comme Goldman Sachs restent optimistes. Selon elles, l'économie indienne devrait rebondir au bout de 6 mois pour rester l'une des plus dynamiques du monde. Une prévision que le Premier ministre qui a lancé cet incroyable pari doit déjà chérir. La démonétisation en Inde, coup de maître ou folie économique? C'était un grand reportage de Sébastien Farcy, réalisation Ludivine Amado.
grande voix d'Afrique.